Ok, shalom à tous. Tsom Moïl pour tout l'âme Israël. Que ce tsom soit un tsom, un jeûne utile pour tout l'âme Israël. Au niveau de la halakha, le tsom qui est institué par. C'est institué à l'époque en tant que psaume des prophètes. C'est-à-dire, on parle de Tsom HaChamishi. Tsom HaRevi, Tsom HaChamishi, Tsom HaShivi, Tsom HaAsiri. Le tsom, le jeûne du 4e mois, du 5e mois, du 7e mois et du 10e mois, ce sont le jeûne de 17 Tammuz, 9 Av, le 3 Tishrei, c'est le jeûne de Gedalia aujourd'hui, et le tsom du 10 Tevet. C'est-à-dire, ces 4 jeûnes, c'est des jeûnes qui ont rapport avec quoi? C'est des jeûnes qui ont rapport avec la destruction du Beth Amikdash. C'est-à-dire? Il y a trois sortes, il y a plusieurs sortes de jeûnes dans la Torah. Dans la Torah Kavana, que ce soit des Rabbanan ou selon l'ordre des Rabbanan, des Rabbins, selon l'ordre de la Torah. On a Kippour. Kippour, c'est un jeûne, c'est le seul jeûne de la Torah. Wakadosh Bokhu nous dit d'Afka, ce jour-là, en même temps que les Kohanim vont faire le service divin, au Beth Amikdash, au temple, le Ham Israël tout entier doit jeûner. Pourquoi? Parce qu'il y a une yane de ve'initem nafshotechem. On doit entraîner des souffrances au niveau de notre corps pour pouvoir s'élever auprès d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le jeûne de Kippour et ça, c'est Minat Torah. Ken.
Je ne sais pas que mon jeûne, il est aussi mal de toute la matérialité, pour s'élever vers la spiritualité pour
toujours. Ouais, c'est ça.
Il n'y a pas de sujet de souffrance.
Alors, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu dois passer par une souffrance du cœur, du corps. Vinitem nafshotechem. Le nefesh. Le inouï, il est au niveau du nefesh. Il y a plusieurs niveaux dans l'âme. Nefesh, c'est l'âme vitale qui permet de fonctionner, de tourner la tête, de bouger, de réfléchir, les choses simples. Tout ça, hein, c'est nefesh. À ce niveau de nefesh, le niveau le plus bas de notre vie, on doit arriver à la... Tu aurais dû manger, tu ne manges pas. Tu te prives. Il y a une privation le jour du Kippour. Tu aurais dû manger, tu aurais dû te laver. Tu ne peux pas te laver. Tu aurais dû prendre des chaussures, tu ne prends pas des chaussures. À ce niveau-là, il y a un inouï pour permettre à la Neshama de s'élever. Ça, c'est le jour du Kippour. Ça, c'est Minat Torah. Ok.
Inouï, c'est pas
un inouï, c'est souffrance. Je ne vais pas dire le mot torture, mais c'est Ken, inouï. C'est-à-dire, c'est une souffrance. Après, ça donnait Ani aussi le pauvre, Oni la pauvreté. Mais le mot inouï, là, c'est dans le sens Ve'ainitem nafshoterem, akavana, tu dois faire souffrir, Kilou, ton côté. Le Tania, Aneshama Abemit, Anefesh Abemit, dira pas Aneshama Abemit, Anefesh Abemit, l'âme bestiale, le côté bestial qui est en nous, tu dois le mettre de côté pour montrer que l'essentiel de ta vie c'est l'Aneshama. Et ensuite, après Kippour, il faut manger. Mais tu manges pour pas parce que tu as faim, tu manges parce qu'Akadosh Baruch Hu il dit maintenant, je t'ai pardonné, tu dois manger. Et tu reviens vers le corps, et le corps il n'est plus le maître, c'est toi qui dirige, c'est toi qui as décidé. Par exemple, il est une heure. Akadosh Baruch Hu, il m'a dit d'aller faire mincha, je fais mincha, je ne vais pas manger. J'ai un shiur de Torah, le ventre est en train de gargouiller, tu gargouilles, tu fais ce que tu veux, moi c'est moi qui domine, c'est moi qui dirige mon corps, tu ne me dérangeras pas, je reste concentré. Ça c'est le travail qu'il faut faire durant toute l'année. Le jour de Kippour, on nous aide en mettant tout ce côté animal qui est en nous de côté pour qu'il se soumette après à la Neshama. Il y a une mitzvah de manger après Kippour. La veille de Kippour et après Kippour, il y a une mise à manger. Une grande mise à. Celui qui mange le 9, c'est comme s'il a jeûné le 9 et le 10. Donc la veille de Kippour, il faut bien manger. Et après, Motsé Kippour, c'est bien de manger. Et on va commencer à s'occuper de tout ce qui a un rapport avec le corps, la soukha, tout ce qui a un rapport avec le matériel. Après qu'on ait passé 24 heures que du spirituel, comme des malachim, comme des anges avec le talit, on revient vers la terre, c'est le Motsé Kippour. Okay. Agmar, elle dit. C'est quoi la logique? La logique, c'est. Les gens, ils te disent, si tu manges bien, la veille de Kippour, Kippour, ce sera plus difficile. Le truc, il est comme ça. Si tu manges la veille et tu manges bien, tu vas mourir le lendemain à Kippour? Tu vas mourir de faim? Tu vas avoir faim, mais tu vas pas mourir de faim. Parce que tu as mangé la veille. Donc, au niveau de la santé, c'est sûr que ça va bien se passer. Mais c'est dans la tête que tout va jouer. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la santé, les médecins vont te dire, mais c'est Bessader, il a mangé tout ce qu'il fallait, il a bu tout ce qu'il fallait, ça va, il peut tenir 24 heures sans manger. Mais au niveau du corps, le corps, il va souffrir encore plus. Il se dit, attends, hier tu m'as donné beaucoup, maintenant aussi je veux beaucoup. Donc au niveau du corps, il va avoir une certaine souffrance. Donc il va falloir te dominer, mettre ça de côté pour te concentrer dans la prière. Et tu dis l'essentiel dans ma vie, c'est la neshama et pas le nefesh, pas le corps. Mais d'un autre côté, au niveau du danger, Akadosh Baruch Hu, il veut notre vie. Il veut pas qu'on meure ou qu'on vienne à mourir, Hazé Shalom, qu'on mette sa vie en danger. Donc il te dit mange. Donc tu as compris, c'est magnifique. D'un côté, tu es préservé au niveau de ta santé, mais au niveau de la souffrance corporelle, c'est plus difficile. Donc il n'y a pas de truc. Mais Kippour, c'est le seul jeûne au niveau de la Torah. Il y a un autre jeûne. Quel jeûne? Au niveau des rabbins, des Nevi'im, des prophètes, c'est institué par les Chachamim. C'est marqué dans le Tanakh, dans les Nevi'im, dans les prophètes. C'est le jeûne du Distevet. On commence par le Distevet. C'est quoi Distevet? Le siège. Ah oui, d'accord. Le siège autour d'Yerushalayim. Du premier temple. Le 17 Tammuz, la première brèche dans Yerushalayim. Le 9 Av, destruction du premier et du second Beth Amikdash. Ça marche? Il a fait. Et le 3, Trotishrei, Tzom Gedalia. On va voir ce que c'est exactement. Ensuite, quelle sorte, ça c'est des jeûnes de quoi? De tristesse, d'élévation spirituelle, de quoi? De tristesse pour éveiller la Tshuva. C'est-à-dire le Mishnah Berurah, il dit Mefourash, une personne qui passe le jeûne en se baladant ou en dormant, ça sert à rien. Bidouk, ça sert à rien. Le jeûne, il doit t'éveiller à la Tshuva. Quel rapport avec le jeûne et la Tshuva? La réponse, elle est simple. Imaginez-vous une personne qui mange. Vous vous rappelez quand vous avez mangé hier? Ou pendant 3 jours, vous avez mangé. On a mangé pendant 3 jours. Vous avez mangé. Nous avons mangé pendant 3 jours. À la fin du repas, comment tu es? Ça va, tu es rassasié. Tu es bien, tu te sens bien. Waouh, qu'est-ce qu'on fait après? Nahon. On veut se reposer. On veut pas trop manger. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Une personne qui mange pas, elle n'a pas ce goût de zviout. Elle n'a pas cette. Elle n'est pas rassasiée. Elle sent le manque. Elle n'a pas cette plénitude. Elle n'a pas cette shlemout. Elle sent le manque. Et quand tu sens le manque, tu veux pas dormir. Et tu dis, mais attends, mais le monde, il va pas là. Pourquoi il va pas? Parce qu'il y a quelque chose qui manque. J'ai faim. Mais si moi, j'ai quelque chose qui manque en moi, peut-être à côté, il y a des gens qui manquent aussi. Peut-être des gens qui ne mangent pas toute l'année. Et tu es plus sensible au manque du bien dans le monde. Cet éveil-là, ça doit te permettre de faire tes chouvas. De dire, moi, ce que je veux, c'est seulement le manque. Combler ce manque-là. Comment tu combles ce manque? Quand tu vas manger après, tu veux dire, grâce au jeûne, j'ai pris conscience que je dois combler ce manque. De quelle façon? En faisant des mitzvot? De quelle façon? En faisant un acte bien? De quelle façon? En changeant en bien? De quelle façon? En étudiant la Torah. Si on est conscient que lorsqu'on étudie une Gemara, on fait tenir le monde, on apporte du bien dans le monde, alors c'est grâce au jeûne que tu as pris conscience de ça. Pourquoi? Parce que grâce au jeûne, tu as pris conscience qu'il y a un manque et toi tu veux combler le manque. C'est ce qui se passe le jour du jeûne. Donc une personne qui essaye de faire passer le jeûne, même pour le travail, c'est l'otov. Parce qu'imagine-toi une personne qui jeûne et qui est au travail, il pense pas qu'il jeûne, il travaille. Non, c'est l'obésité, c'est pas bien. Le jeûne, c'est pour éveiller le manque. Une personne qui va faire les courses, qui va se balader, qui va faire, je sais moi, il va changer les idées, c'est l'otov. Je parle pas de trucs assourds, Bichlal, de regarder la télé ou regarder un match de foot, ça c'est pas shoot, il est à côté de ses baskets, comme on dit. C'est... Ok. Le jour du jeûne, devant. Et après le jour du jeûne, ça fait. Ok. Pour réveiller la Tshuva, des cours de Torah sur Internet, il n'y a aucun problème. Là, tu vas me dire qu'il jeûne pour qu'il gagne, mais c'est l'autre top. Il y avait une personne qui étudiait beaucoup le Rav Kook. Une fois le Rav Wiener, il adorait le Rav Wiener, tout ça. Une fois le Rav Wiener, il a dit, mais c'est quoi le foot? Quand tu regardes un jeu, que tu joues au foot, mais c'est le sport, le Rav Kook, il a parlé, tu vois ta goût, faire tu vois au niveau du corps, ça marche. Mais que tu t'intéresses et que tu vois des gens jouer au foot, 22 personnes qui sont en train de courir derrière un ballon, donne-leur à tous un ballon. Quand il a entendu ça du Rav Wiener, du jour au lendemain, il a dit, non, il comprend rien. Du coup, du Raviner et tout ça, etc. Et pourtant, c'est une personne qui lit Oroth. C'est une personne qui lit Oroth. Moi, je pense qu'il a rien compris à Oroth. Une personne qui, d'un côté, il joue encore au foot. Pas il joue, au jeu, il n'y a aucun problème. De regarder, de passer du temps pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait. Etc. Et d'un côté, tu étudies Oroth. C'est deux mondes complètement différents. Mais non, moi, je ne suis pas baissé d'air. Pourquoi? Parce qu'une fois, le Rav Ziyuda, il était allé à Yeshiva Merkaz Arav avec ses bachouris. Rav Ziyuda, il avait combien? 80 ans, 80 plus. Il voit un bachour avec un livre. Allez, Yeshiva. Il voit un bachour avec un livre. Et le bachour, il était comme ça. Le Rav Ziouda, il dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il s'approche, il dit, qu'est-ce que tu lis, mon fils? Alors l'élève, rien du tout. Alors, il fait, tu peux, mais raconte-moi. Et il devient tout rouge, il a honte, il fait, non, je vais pas. Mais dis-moi, c'est quoi? Il fait, c'est un roman policier. Alors le Rav, moi, qu'est-ce que j'aurais fait? D'abord, moi, David Barso, j'aurais fait, j'aurais attrapé, j'aurais mis dehors. T'es pas là, Yeshiva, pars d'ici, prends tes bagages, rentre à ta maison, chez toi. Réga, on parle de quoi? On parle de quoi? On parle d'une personne, Yeshiva de Merkez Arab. Yeshiva de Merkez Arab, c'est à un certain niveau, une personne qui lit un roman. Mais le Rav Ziouda, il a dit non, t'as honte, David Barso, tu t'es trompé, c'est pas ça qu'il faut faire. Parce que c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Parce que s'il kiffe lire un roman, si c'est sa rama, c'est pas sourd de lire un roman. Il y a des romans qui sont sourds, je pense, mais il y a des un roman policier, il n'était pas sourd. Maintenant, il vient, qu'est-ce qu'il dit le Rav Ziouda? Il commence à dire, ah, mais ça t'intéresse? Alors raconte-moi. Raconte-moi qu'est-ce qu'il y a dans ce roman. Et il lui a demandé de le raconter dans ce roman. Qu'est-ce qu'il a fait? L'élève, il est à ce niveau. Le Rav, et c'est ça la force du Rav, il s'est mis à ce niveau. À son niveau. Il dit, si t'intéresse, mais va cacha. Sinalacha. Souka dans le Jouranao, on comprend ça comme ça le Jouranao, que si par exemple Shabbat, t'es assis à table, il y a une mitzvah de Oneg Shabbat ou il n'y a pas de mitzvah de Oneg Shabbat? Il y a une mitzvah, Oneg Shabbat. Maintenant tu sais que quand tu vas commencer à devoir Torah, celui de droite il va commencer à s'endormir, et celui de gauche il va commencer à regarder la montre, et celui d'en face, Bichal, il est déjà parti. T'as le droit de faire un devoir Torah? De l'otov, parce qu'il n'y a pas de Oneg Shabbat. Maintenant par contre, si tu sais que si le type de droite et celui de gauche il kiffe le foot, t'as envie de parler du foot? Oui. C'est-à-dire d'un côté, c'est affreux de devoir le Shabbat, de devoir parler du foot. D'un autre côté, si c'est leur Oneg Shabbat, alors c'est bien de parler du foot. Alors, Digar, c'est quoi le truc? Histoire qu'on m'a racontée, le Rav Zuckerman, je sais pas si on permet de raconter cette histoire, mais je prends le droit. Le Rav Zuckerman, il était avec un élève. Pendant le trajet Yerushalayim, je crois que c'était Be'er Sheva ou c'était Mitzvah Ramon, 2h30 de trajet, il a parlé de moteur de moto pendant 2 heures. Rav Zuckerman, ouais, c'est quand on met toi. Tiens, tu te dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Bitoulzman, bitou truc. Il y a une différence entre les Ehov et les Ehov. Il y a les Ehov, Ani Ohev et Atzmi, moi je m'aime personnellement, et la personne qui est en face de moi, je l'aime pas trop. Et il y a les Ehov et Tazulat, aimer le prochain. C'est quoi aimer le prochain? Dans son niveau où il est, respecter et lui montrer, s'intéresser à ce qui s'intéresse. Pourquoi? Parce que c'est son niveau. Et ça, c'est énorme quand vous serez père et mère, Bezot Hachem. Mon mère, vous pouvez pas l'être, mais père, vous pouvez l'être. Quand vous serez père et que vos enfants, ils joueront aux billes, tu dois jouer aux billes avec eux. Si tes enfants, ils jouent au Playmobil, tu dois jouer au Playmobil avec eux. Tu joues au foot? Au foot avec eux. Ça, c'est un moussard pour moi-même. Shabbat, il y a une marloquette. Playmobil, il y a une marloquette. Ça dépend s'il y a une qui passe roga ou pas. Tu vois. Non, lui dit, t'es à Merkaz Arav, comment tu joues au Playmobil? Attends, best-seller. Tout ça pour vous dire que l'union du jeûne, c'est d'éveiller le manque. Quand il y a le manque, t'arrives à combler le manque. C'est ce qui s'est passé. Ça s'appelle le krav, ça s'appelle le combat. Comment on dit un... Krav, c'est un combat, Ken. C'est ce qui se passe lorsqu'on mange. Lorsque vous allez manger ce soir, faites attention. Il y a un grand danger. C'est quoi? C'est tout ce que vous avez pris durant ce jeûne, l'éveil, je veux révolutionner le monde, je veux apporter le bien, je veux encore mieux étudier la Torah. Je veux être bien par rapport à Kadosh Baruch Hu, faire sa volonté, etc. Construire l'état d'Israël, remplir l'état d'Israël de Torah. Lorsque vous avez mangé, vous avez peut-être tout oublié. Vous allez peut-être tout oublier. Lorsqu'on mange, on oublie tout ce qui s'est passé. Comme une personne qui est devenue riche, elle oublie qu'elle était pauvre et elle voulait aider les gens. Une personne qui était bien, elle oublie qu'elle devient bien, elle oublie qu'elle était malade et qu'elle avait des malades dans son hôpital. Une personne qui est sortie de l'hôpital, elle oublie les gens qui étaient à l'hôpital avec elle. Une personne qui sort de prison, elle oublie les gens qui étaient à la prison avec elle. Rappelez-vous Sarah Mashkin par rapport à Yosef. Maintenant, quand vous allez sortir de l'hôpital, lorsqu'on va sortir de la faim, Akadosh Baruch Hu nous a dit, ok, tu vas peut-être tomber, mais j'ai une solution. Comment s'appelle cette solution? Birkat Amazon. Lorsqu'on fait le Birkat Amazon, la première bracha, c'est Azan et Takol. On est Akadosh Baruch Hu qui nourrit le monde. La deuxième bracha, à la reste de l'Amazon. On remercie que Akadosh Baruch Hu nous ait donné un pays. Nos Delecha, à la reste Tova. Nous te remercions. Les Chagas, j'ai jamais compris comment tu peux faire Birkat Amazon à Lyon. À Lyon ou autre part.
Pourquoi?
Ah, Ah non, j'ai mal, l'image, j'ai pas pensé. Nodelecha sur la sur à Lyon, je comprends pas. Tu es en plein Lyon ou en plein New York ou en plein Boston et tu dis Hachem, je te remercie de m'avoir donné Eret Israël. Baruch at Hachem à la Red Amazon. Hachem il dit alors qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? L'homme est vin. Allez, l'homme est vin. Vas-y.
Enfin, l'État d'Israël, vous, vous la voyez en tant qu'État, mais en Galouz, on la voit comme un lien entre nous. Quand il y a des intentions sur ce serait, on est le premier à les savoir.
Razak.
Parce que c'est un lien, c'est pas.
Là, il faut le transformer, parce que tu dis à Kadosh Baruch Hu de m'avoir donné cette terre, que j'ai hérité de cette terre, et je peux faire sortir de la nourriture de cette terre. En besoin d'Hachem, Zachita, les tu as eu le mérite de monter en Israël. La troisième bracha, c'est là où on comprend plus rien. C'est quoi la troisième bracha? Rachem. Prends en pitié. Quoi? Tzion, Yerushalayim, Bet Amigdash. Quel rapport? Baruch at Hashem, bon Yerushalayim, reconstruit Yerushalayim. Quel rapport avec le repas? Vous pouvez me dire? Quel rapport avec le repas? Il n'y a aucun. Si ce n'est que, avant le repas, lorsque tu as senti le manque, quel est le manque le plus grand dans ce monde? Le Bet Amigdash, le manque de la Shrina, le manque de la présence divine. Maintenant, tu as mangé, tu te rappelles plus du Bet Amigdash. Pour toi, le Bet Amigdash, il n'est pas construit? Ah, il n'y a pas le Bet Amigdash? Ah, je croyais qu'il y avait un Bet Amigdash. Ça, c'est après le repas. Akadosh Baruch Hu, il dit, regarde, prie sur le Bet Amigdash pour que cette force que tu as maintenant, du fait d'avoir mangé, ça te donne la force de pouvoir œuvrer pour la reconstruction du Bet Amigdash. Ça, c'est le Baruch Atah Hashem Boni Yerushalayim. Une autre fois, l'Agbaromer, on expliquera pourquoi la quatrième bracha. Parce qu'il y a une quatrième bracha, le Chachamim a été rajouté. Ici, je vous ai distribué la courbe. Pas la courbe, on appelle ça. La frise. La frise chronologique. Cette frise-là, elle était faite par un Talmid Chacham. On va l'utiliser toute l'année. Ça commence de l'an. De l'an 1. Je pense que c'est compté par 1. Vous voyez Adam? Ok. Alors, les premiers. Le premier millénaire et le deuxième millénaire, c'est appelé en haut le chaos. Nachanto vavu, c'est le pied à la Gemara, que l'histoire du monde, c'est 6000 ans, 2000 ans, 2000 ans, 2000 ans. 2000 ans de tohu vavu, de balagan, de désordre. 2000 ans de. Les autres 2000 ans, de 2000 à 4000, c'est quoi? De Torah. Et de l'an 4000 à l'an 6000, c'est 2000 ans de Mashiach. Mashiach, c'est le Messie. Le Messie qui doit arriver. Non, parce que c'est celui-là. C'est le troisième. Ici, les deux premiers millénaires, on a Adam. Est-ce que vous voyez les personnes importantes qui ont fait l'histoire? Chet, vous l'avez? Seth, c'est marqué en français. Vous avez Noir? Noé? Noé. En 1056, il a fait. Est-ce que vous avez Shem? En 1500 combien? 58. 1558, on a Shem. Sem. Ensuite, vous avez Shem. Il a monté une yeshiva, n'achon? C'est là où nos pères ont étudié la yeshiva de Shem et de Aever. C'est qui Aever? Regardez Aever. Vous l'avez le descendant de Shem? Aever. C'est qui Aever en hébrite? En français, je veux dire, c'est hébreu. Aever, c'est l'hébreu. C'est le premier hébreu de l'histoire. Aever. Ensuite, on a Terach et on a enfin Abraham. En quelle année Abraham? 1948. 1948. On y va. En quelle année naît Yitzhak? 2048. Quel âge avait Abraham? 100 ans. À partir de Yitzhak, on compte 400 ans d'exil. En quelle année on sort d'Égypte? Regardez l'exil en haut. Non, non. En quelle année on sort d'Égypte? 2448. Il y a fait 400 ans après Yitzhak, qui est né en 2048. Ça, vous devez l'apprendre par cœur. En 2448, on rentre en Eretz Israël. Qui nous fait rentrer en Eretz Israël? Ah, slicha, 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 slicha. Non, non, non. 2448, on reste 40 ans dans le désert. De 2448 jusqu'en quelle année? 2488. Ça fait? Là, on rentre en Eretz Israël. Qui nous fait rentrer en Eretz Israël? Yahushua. On commence, regardez le sous-marin en bas. On commence l'époque des juges. En 2488, on commence l'époque des juges. Shoftim, c'est ce que vous avez étudié avec Roni Bezrat Hashem à la rentrée. Roni Akrish. Vous allez prendre chaque chauffette, chaque juge, vous allez voir, ça va être extraordinaire. Même moi, je crois que je vais rentrer au cours. 2488. Ensuite, on est en Eretz Israël. Qu'est-ce qui se passe en Eretz Israël? Yoshua, Josué, fait la conquête d'Eretz Israël. On ne fait pas une conquête totale, mais on avance vers la perfection. Et on a la naissance de Shmuel. En quelle année? 2830, vous l'avez? Le fameux Shmuel, fils de qui? De Elkana et de Hana. Il naît. Il va nommer tout d'abord le premier roi d'Israël qui va s'appeler Shaoul. Shaoul. Et lorsque Shaoul est nommé, il va. La royauté commence. Okay. Et on va nommer après David. David va vouloir construire le Beth Amikdash. Mais Akadosh Baruch Hu refuse. C'est son fils Shlomo qui va construire. En quelle année? 2928, construction du premier Beth Amikdash. Le premier Beth Amikdash va durer de 2928 jusqu'en 3338. Qui me fait le compte? Combien d'années a duré le premier Beth Amikdash? Combien 410 ans. Maintenant, regardez. Rappelez-vous, Katit, c'est quoi Katit? Katit, la Mahor. Qui a été concassé pour la lumière. C'est-à-dire, c'est de l'huile d'olive, des olives qu'on a concassées pour la lumière. Katit, ça s'écrit comment, Katit? Kaf, Tav, Yud, Tav. Katit, la mort. C'est peut-être en rapport, oui. C'est en rapport avec l'huile qu'on a allumée avec la menorah. Tav, c'est combien, Gematria? 400. Kav, Tav, c'est 420. 420, c'est la période du second temple. Le second temple, il a duré 420 ans. Et Yud Tav, c'est 410 ans. C'est la période du premier temple. Quand vous avez tout pour vous rappeler. Ça marche? Katit. 410 ans pour le premier temple, 420 ans pour le second temple. Si vous ne le marquez pas, ça vous en rappellerez jamais. Non. Maintenant, regardez ce qui se passe avant la destruction de... Avant l'exil de Babylone, avant la destruction du premier temple. On a en 3338, il y a un carré avant. Vous voyez les petits carrés? Jeune, 10 Tevet, 17 Tamouz, 9 Av et Gedalia. Alors, ce n'est pas marqué Mamash par rapport aux années, parce que ça a pris du temps. Mais le jeune, ça s'est passé, les événements sont passés avant la destruction du premier temple. D'accord? Avant 3338. Juste pour que vous ayez conscience de l'histoire juive. L'exil de Babylone, on part en Babel, grosso modo, parce qu'il y a aussi l'exil d'Égypte au même moment. 3338, combien on reste en Babylonie? Babylonie, c'est l'Irak d'aujourd'hui. On reste 70 ans. 70 ans en Babylonie. En quelle année on revient? En 3408. On revient en Eretz Israël pour faire le second temple. Avec qui on revient, grosso modo, avec Ezra et Néhémia. Ezra et Néhémia nous ramènent. On est l'époque du second temple. Qui nous dirige? C'est pas marqué ici. Mais on est dirigé par Perse et Mède. La Perse et la Mède. Ouais. Jusqu'à la révolte des Maccabim. Qui va se passer en quelle année? Regardez ici. Hanouka, c'est en quelle année? 3622. Hanouka. Révolte des Maccabim, on retrouve l'indépendance. On dit le Hallel. Pourquoi on dit le Hallel? Parce qu'on retrouve enfin l'indépendance. La grosse Kouchia. Comment ça se fait que lorsqu'on est revenu en Eretz Israël, on n'a pas dit le Hallel? Parce qu'on est, même si on était revenu en Eretz Israël, même si on a construit le Beth Amikdash, on était encore sous la tutelle des nations. On était sous la tutelle de Perse et de Mède. C'est seulement à Hanouka qu'on retrouve la totale indépendance. On la retrouve jusqu'en quelle année? 3828. Destruction du second temple par qui? Par les Romains.
C'est quoi de la prophétie Alexandre à Jérusalem?
Wow. Alors, fin de la prophétie. Au début du second temple, il restait quelques prophètes. C'est eux qui vont fermer l'Anshe Knesset HaGedola. Anshe Knesset HaGedola, il y avait 120 Chachamim qui ont été nommés. C'est eux qui vont faire tout ce qui est des Rabbanan, c'est eux. Les Brachot, c'est eux. Shmona Israël, Amida CE, le Yotzer, toutes les brachot qu'on connaît, Shakol Yamidvaro CE, etc. Parmi eux, il y avait encore des prophètes. On dit qu'il y avait 85 prophètes. Facile à s'en rappeler. Comment tu dis une bouche? Pehe, 85 prophètes. C'est la bouche du Ham Israël, puisque le prophète c'est la bouche d'Hachem. Il y avait 85 prophètes qui, eux, ont institué toutes, qui ont écrit toutes les tuilotes. Mais après eux, il n'y a plus de prophètes. C'est-à-dire pendant toute l'époque du Second Temple, plus que la prophétie a raté sa mission, parce que c'était quoi la mission de la prophétie? C'est de faire faire tes joies à Israël. Les prophètes ont raté leur mission. Alors on va laisser la place à qui? Au Chachamim, au sage. C'est-à-dire, on laisse une nouvelle période où le judaïsme, ou l'être Israël, va se dévoiler d'une façon totalement différente de l'époque du prophétisme. C'est-à-dire, pendant la période où on était prophète, où il y a des prophètes dans la Misraël, on n'avait pas les misvot comme on a aujourd'hui. Parce que Bessar Hakol, les misvot des Rabbanan, c'est ce qui nous. Les misvot que Chachamim ont institué, ça nous couvre toute la vie. C'est-à-dire, les tfilot, Netilat Yadayim, toutes ces choses-là, on ne le faisait pas du temps du premier temple. Sont venus les Chachamim, par l'aide des prophètes, mais à la place des prophètes, ceux qui vont nous donner un ordre de vie et une façon de réaliser la volonté d'Hachem pendant toute la période du Second Temple jusqu'à nos jours. Et on finit, parce qu'on doit aller en Alcor avec le Rav Bigon. En 3948, on a la Mishnah. Une fois, une personne m'a demandé comment ça se fait que toutes les dates, elles finissent par 8. 8, c'est le chiffre qui est au-dessus de la nature. Qu'en irait que l'histoire d'Israël, même si elle parlait, elle peut être mise sur une frise, elle reste intacte et elle reste surnaturelle. On a pas parlé de Gedalia. Prochain cours, on expliquera Gedalia. De toute façon, je pense que le Rav Bigon, il va parler de Gedalia, il va expliquer ça.